Bon matin à tout le monde, ça va bien? Je vous souhaite un... J'espère que vous avez eu un bon Noël. Et je vous souhaite une joyeuse et heureuse année qui s'en vient. Il y en a parmi vous qui sont en congé en ce moment. Normand, quand il m'a demandé de prêcher aujourd'hui, puis j'ai dit oui, il a dit « Ah, puis en passant, il va y avoir plein de prédicateurs de d'autres églises en vacances. » Fait que je sais pas où vous êtes où, je veux pas le savoir, mais bienvenue à vous. Donc, ça me fait plaisir d'être ici avec vous ce matin. Et puis, c'est la nouvelle année qui s'en vient. Puis peut-être que certains d'entre vous, vous avez entrepris de faire des résolutions pour la prochaine année. Et je me suis amusé à voir un peu c'est quoi les résolutions, peut-être les plus populaires. Quelques-unes. Évidemment, cette année, je vais manger plus santé. Je vais faire des efforts pour avoir du succès. Je vais entreprendre des nouvelles choses cette année. Cette année, je vais contrôler mes mauvaises habitudes. Donc, je vais aller voir moins souvent mon Facebook ou aller moins souvent sur mon téléphone. Je vais prendre des bonnes résolutions. Puis quand on pense aux résolutions, je pense qu'en quelque part, pour tout le monde, il y a cette volonté, bien honnête, de vouloir faire le bien, de vouloir être une meilleure personne, de vouloir même peut-être faire du bien aux autres avec nos résolutions. Et je pense pas que on peut y arriver toute seule. Je pense pas que les statistiques démontrent que ça dure pas longtemps ces affaires-là. Mais pour ceux qui ont des résolutions, je vous souhaite quand même bonne chance pour cette année. Puis, parce que ce message-là, c'est pas un message à propos de comment faire que nos résolutions durent plus que 2 mois, mais plutôt, j'espère qu'ensemble, à la fin de la matinée, on va pouvoir prendre des bonnes résolutions ensemble. Chacun d'entre nous, peut-être de façon individuelle, mais en tant qu'Église aussi, je pense qu'on peut faire ça. Et puis, ce matin, un petit peu rough, mais le texte que j'ai choisi, on va parler essentiellement 2 choses. On va parler du péché, puis du pardon de nos péchés. Fait que je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui prenez plaisir à penser à vos péchés, à parler de péché avec d'autres, mais c'est quand même quelque chose qui est important qu'on regarde ensemble ce matin. Et puis, que, comme je disais, que j'espère qu'à la fin de cette matinée, qu'on puisse regarder... c'est quoi notre relation avec le péché? Comment est-ce que moi, face au péché, j'agis? À quoi est-ce que je pense quand je pense au péché? C'est quoi peut-être ma définition du péché? Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est qu'on regarde ensemble comment est-ce que Dieu veut nous amener à réagir face au péché dans notre vie. Ça, c'est je pense, c'est ce qui est le plus important. Puis on va aller dans la prière, mais on va regarder un texte ensemble ce matin qui parle de ça. 3 fois, on va voir des mauvaises conceptions du péché, des mensonges concernant que des gens à l'époque disaient, et 3 fois la réponse va être la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc, avant d'aller plus loin, on va aller dans la prière. Seigneur Dieu, je te remercie d'être parmi nous ce matin. Je te remercie de nous donner ta parole pour nous instruire, de nous donner ta parole pour nous corriger, Seigneur, et nous amener dans le droit chemin. Je crois que vraiment, cette nouvelle année, c'est comme un nouveau départ pour les gens. On peut le voir comme ça. Les gens peuvent voir ça comme un temps pour réfléchir sur qu'est-ce qui se passe dans nos vies, puis comment est-ce qu'on aimerait que notre vie soit. Et je te prie, Seigneur, qu'on ne passe pas à côté de cette réflexion-là de ce que tu as à faire dans nos vies, comment tu veux qu'on deal avec le péché dans nos vies, mais surtout comment est-ce que toi, tu veux faire ta place dans notre vie. Et c'est ce qu'on veut voir ensemble ce matin, et je te prie d'être avec nous, de parler à nos cœurs, et vraiment de nous convaincre là où tu as besoin de le faire, Jésus. Amen. Donc, si vous avez vos Bibles, vous pouvez aller avec moi dans 1 Jean. Au chapitre 1. Je vais faire la lecture à partir du verset 5 jusqu'au verset 2 du chapitre 2. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc, essentiellement, le message qu'on va voir ce matin parle de deux choses. D'un côté, du péché, et puis de l'autre côté, le pardon de nos péchés. Et puis, c'est vraiment intéressant parce que l'auteur Jean commence son passage avec une chose, une phrase. Avant de parler du péché, puis il va en parler pendant tout ce passage-là, mais juste avant ça, il dit une phrase à propos de Dieu. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Et puis, je pense que pour avoir une bonne compréhension du péché, on a besoin de s'arrêter sur cette phrase-là. On a besoin de lire cette phrase-là, puis de regarder qu'est-ce que ça veut dire « Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui ». On voit que la lumière, c'est quand on parle de cette métaphore que Dieu est lumière, on parle de Dieu comme étant un Dieu complètement pur. Il n'y a aucun péché en Dieu. Dieu n'a jamais péché. Dieu est la lumière, il est le contraire des ténèbres. C'est le seul être, Dieu, c'est lui, le Créateur, c'est lui qui nous a créés, c'est le seul qui a jamais connu le mal. Dieu est complètement lumière. Jean utilise cette métaphore-là pour qu'on comprenne que Dieu n'est pas comme nous. Nous, on a connu le péché. Nous, on a cette connaissance du péché qui est en nous. On a expérimenté le péché. Mais Dieu, c'est un Dieu de lumière, un Dieu parfait. Et cette phrase-là, cette compréhension-là doit être à la base de notre conception du péché. Parce que nous, on a connu le péché. Notre jugement en matière de savoir ce qui est bien et ce qui est mal, il est faux. Parce que honnêtement, il y a bien des choses que j'aimerais qu'elles soient bien, mais que Dieu dit que ces choses-là sont mal. On a besoin de Dieu, on a besoin de ce Dieu de lumière pour dire ce qui est bien et ce qui est mal. Et en fait, toute notre vie, on va faire quelque chose, on va penser, on va agir, et on le fait soit selon la volonté de Dieu ou contre la volonté de Dieu, à cause que c'est lui qui a établi ce qui est bien et ce qui est mal. Parce qu'il est parfaitement bon. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Et Dieu ne tolère pas les ténèbres. Dieu lui-même n'a pas de péché et ne tolère pas le péché dans sa présence. C'est un Dieu saint, complètement saint, parfait. Il ne tolère pas le moindre péché. Et nous, nous sommes des pécheurs. On a tous péché. Et j'espère que la majorité d'entre nous, on a connu Jésus et on est sauvés par la grâce de Dieu. Il faut se réjouir de ça. Mais ce qu'on va voir ce matin, c'est que même là, et je sais que vous le savez, mais même là, le péché continue à faire partie de notre vie. Et on a tous cette relation-là, peut-être une relation différente, mais une relation avec le péché. Puis dans ce passage-là, on va voir trois phrases qui commencent par « si nous disons ». Et évidemment, ces phrases-là sont des fausses conceptions. C'est des mensonges qui circulaient à l'époque. Jean écrit une lettre à des chrétiens pour les mettre en garde contre ces conceptions-là. Et il veut faire ça pour qu'on puisse être en communion avec Dieu. Dieu est lumière, et si nous voulons être en relation avec lui, nous avons besoin de marcher dans la lumière. Donc, nous allons voir ces trois phrases-là, et ce qui est intéressant, c'est que chacune de ces fausses conceptions-là, ces trois fausses conceptions-là sont accompagnées de l'Évangile. Trois mauvaises nouvelles accompagnées trois fois par la bonne nouvelle. Donc, je sais que ce n'est pas toujours agréable de parler du péché, mais mon but ce matin, ce n'est pas de le faire pour que chacun d'entre nous, on soit culpabilisé puis qu'on se sente mal, puis qu'après ça, on parte d'ici, puis qu'on continue notre vie sans avoir vraiment réfléchi. L'objectif de ce passage-là, c'est de nous montrer que le péché fait partie de notre vie, mais que la grâce de Dieu fait encore plus partie de notre vie. Mais que c'est très facile de passer toute notre vie à ignorer ça. Mais que c'est à notre portée, puis que Dieu veut avoir cet impact-là dans notre vie. Donc, le premier, si nous disons, au verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Et avant d'aller plus loin là, je veux juste vous dire aussi que dans les trois conceptions, je crois que chacun d'entre nous ici ce matin, on peut se voir plus dans une des autres. Et je pense que c'est bon qu'on regarde les trois, mais je pense que c'est normal qu'on regarde et dise, ben ça, c'est pas moi. Bon, faut pas dire c'est l'autre à côté, par exemple. Mais ça se peut qu'on se retrouve, on va se retrouver plus dans un des trois. Mais le premier, si nous disons, c'est le premier mensonge que Jean dénonce, et c'est que des gens disent être en relation avec Dieu, tout en continuant à vivre une vie dans le péché, tout en continuant à avoir un style de vie qui n'honore pas Dieu. Ces gens-là se disent, Jésus est mort pour moi, mais justement, j'ai pas besoin de rien changer, je m'en vais quand même au ciel. Une telle personne pourrait dire, je crois que Jésus est mort à la croix pour mes péchés, je m'en vais au ciel, mais je n'ai pas besoin de rien changer. Je peux continuer à vivre ma vie comme je l'ai toujours vécu. Je suis déjà pardonné, ce n'est pas grave. Oui, je suis orgueilleux, mais je suis comme ça. Je ne vais jamais changer. C'est une personne qui peut dire qu'elle est chrétienne, mais son style de vie n'est pas conforme du tout à la volonté de Dieu. Ça peut être aussi une personne qui, puis je ne sais pas si vous avez rencontré des personnes comme ça, peut-être que toi tu vis ça aussi ce matin, qui croit en Jésus, qui croit au salut de Jésus à la croix, mais quand tu lis la Bible, il y a des choses que tu as de la difficulté à croire. Et tu dis, ben moi, je crois en Jésus, mais ça je ne le crois pas, puis ta vie, ton style de vie va démontrer que tu ne crois pas ces choses-là. Quand j'étais à l'université, je disais à certaines personnes que je m'étais marié puis que j'avais décidé d'attendre mon mariage pour avoir des relations sexuelles. Puis quand on parlait de ça, il y a certaines personnes qui disaient « Ah, c'est bon, tu sais, tout a fait ça, comme moi, j'aurais jamais été capable. » Mais il y a aussi des personnes qui disaient « C'est quoi le mal là-dedans? » Aimer, se faire du bien. Essaye de m'expliquer pourquoi est-ce que Dieu t'empêcherait de faire quelque chose qui est bon. Et quand on se met à réfléchir comme ça, j'ai grandi dans l'Église. J'avais 3 ans quand mes parents sont venus à l'Église la première fois. Donc j'ai grandi avec cette conception-là. Et la plupart de nos jeunes grandissent avec cette conception que le mariage, c'est Dieu qui l'a créé. La sexualité, Dieu l'a créé pour le mariage. On apprend puis on croit que le mariage, c'est un beau portrait de l'unité de Dieu. C'est un beau portrait du sacrifice de Christ envers son Église. On croit ces choses-là, puis on se dit qu'on va grandir, puis on veut attendre le gars ou la fille qui va marcher avec Dieu, qu'on va marier, puis qu'on va vivre une relation avec Dieu, puis on veut ça. Puis il y a plein de choses comme ça, je prends cet exemple-là, puis il y a plein d'autres choses comme ça dans notre vie qu'on a de la difficulté quand on vient à faire l'expérience de ces choses-là, puis on se demande, mais qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Puis on a de la difficulté à croire que Dieu veut vraiment pas ça, puis on peut être influencé par ça. Et puis on peut dire, ben finalement, je crois en Jésus, mais je crois aussi que c'est correct d'avoir une relation avec quelqu'un que je suis pas marié avec, parce qu'il n'y a rien de mal là-dedans. Et je vais vivre comme ça. Ça, c'est un exemple, mais on peut nommer plein de choses qui va faire que notre style de vie ne sera pas conforme à la volonté de Dieu. Ça peut être quelqu'un aussi qui croit en Jésus, mais qui se dit, j'ai tellement fait des affaires graves dans ma vie que Jésus ne va jamais me pardonner. J'ai fait trop des choses, trop souvent. J'ai essayé un peu d'arrêter, mais là, je ne suis plus capable. Fait que oui, je crois en Jésus. Jésus m'a sauvé, mais je vais continuer à faire ces choses-là. J'abandonne le combat. Mais il y a une belle promesse au verset 7. Comme je dis, les fausses conceptions sont toujours accompagnées d'une belle promesse. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Jean dit, puis c'est drôle, quand j'ai lu ça la première fois, on dirait que comme j'ai reculé, j'ai dit, ah, j'ai mal lu, je pense. Et Jean dit que ceux qui marchent dans les ténèbres ne sont pas en communion avec Dieu. Mais au verset 7, il dit, si nous marchons dans la lumière, il me semble que je m'attends à, si nous marchons dans la lumière, je suis en communion avec Dieu. Mais non, Jean dit, mais si je suis dans la lumière, je suis en communion les uns avec les autres. Et Jean dit, nous sommes en communion les uns avec les autres. En fait, le point de ce passage qu'on regarde ce matin, c'est que si on vit dans le péché, on n'est pas en relation avec Dieu. Mais si on vit dans la lumière, nous sommes en communion avec Dieu et les uns avec les autres. Le péché dans ma vie, le péché dans notre vie, a des conséquences sur notre relation avec Dieu, mais aussi des conséquences sur notre relation les uns avec les autres. Jean continue, si on lisait tout un Jean ensemble, Jean parle de ça. Et au chapitre 2, au verset 9, Jean dit, « Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. » Pour Dieu, être dans la lumière, être en communion avec lui, c'est l'aimer, aimer tout ce qu'il est, tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il dit, et c'est aussi aimer son prochain, aimer sa femme, aimer ses enfants, ses amis, ses frères et sœurs dans l'Église. Jean ne prétend pas que les relations sont faciles ou on ne peut pas voir qu'il dit « Ah, il n'y aura pas de conflit ». Mais pour un enfant de Dieu, ne pas aimer un frère ou une sœur, chercher à faire du mal à quelqu'un, refuser de pardonner quelqu'un, ne pas chercher à se réconcilier, ça ne devrait pas être une option. Parce que le signe qu'on est en communion avec Dieu est l'amour qu'on a les uns pour les autres. Et puis, Jean dit aussi que si nous marchons dans la lumière, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Jean dit, c'est comme si on dit, tu as deux choix. Tu peux vivre dans le péché, prétendre faussement être en communion avec Dieu, ou tu peux admettre que tu es un pécheur. Reconnaître que tu es pécheur, que tu as besoin de Jésus, et ton sang va te purifier. Son sang va te purifier. Jésus est mort pour nous purifier de nos péchés. Tous les péchés. Peu importe le plus grand, peu importe combien de fois, le sang de Jésus te purifie de tout péché. Et on voit que au verset 6, ça disait que si on dit qu'on est dans la lumière, mais qu'on marche dans les ténèbres, on ment, nous mentons. On peut mentir à Dieu. On peut ne pas lui faire confiance. Ou on peut reconnaître que ce qu'il a fait à la croix, c'est la plus grande preuve d'amour pour moi qu'il pouvait avoir. Puis je dis, je veux croire que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il dit, c'est la vérité. On a tout ce qu'on a ici, tout ce qu'on a besoin ici pour faire confiance à Dieu malgré tout. Faire confiance à Dieu, faire confiance à ce qu'il dit, puis de lui remettre nos péchés. Et puis le deuxième, si nous disons, la deuxième phrase au verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Donc, je pense que la plupart d'entre nous qui se trouvent ici, on va se reconnaître dans ça. Puis quand que je dis ça, je suis pas en train de dire que je pense pas que vous croyez à la doctrine du péché, que vous avez pas de péché. C'est pas ça que je dis. Je pense que la plupart d'entre nous croient au péché, croient que vous êtes pécheurs, puis qu'on va seulement être parfait quand qu'on va être au ciel. Je pense que la plupart d'entre nous croient qu'on a besoin de Jésus pour cela. Puis ce que Jean est en train de dire, c'est qu'il y a des chrétiens qu'eux, ils croient qu'on n'a pas de péché maintenant. Maintenant qu'on est devenu des chrétiens, dans le moment présent, on n'a pas de péché. Peut-être qu'on en a eu avant d'être chrétien, mais là, on est chrétien, on n'en a plus. Ces gens-là, ils vivent comme s'il n'y avait plus de péché. C'était probablement des gens qui vivaient avec des standards moraux, qui étaient des bonnes, qui disaient être des bonnes personnes, qui faisaient des bonnes choses, puis qui disaient... ils se comparaient aux autres, puis ils disent, nous, on est vraiment bon à côté de ce que le monde est en train de comment le monde est en train de vivre en ce moment. Ils pouvaient vivre en croyant qu'ils n'avaient pas de péché. Mais, puis au verset précédent, juste pour faire une petite, pour revenir, une liaison entre les deux, Jean nous a dit, qu'on était purifié de nos péchés, ça veut dire quoi? On n'a plus de péché? Ou Dieu nous a pardonné nos péchés? Puis là, ici, il dit, si tu dis que tu n'as pas de péché, tu te trompes toi-même. Alors, il faut juste se dire que c'est justement le point qu'il est en train de faire ici. Il est en train de dire, si Jésus te purifie de tes péchés, ça ne veut pas dire qu'après ça, toute ta vie, tu vas vivre, puis... tout va être parfait, puis tout va être facile, puis tu n'en auras plus de problème. Ça va revenir. Puis il va y avoir une bataille pour toute ta vie. Dieu va toujours être en train de travailler dans ta vie pour travailler des choses en toi, puis pardonner des péchés, puis on va toujours être en train de confesser nos péchés, puis de demander pardon à Dieu. On va être parfait que seulement que quand on va arriver au ciel dans sa présence. Mais Dieu nous donne tout ce qu'on a besoin pour que cette nouvelle attitude nous pousse à vouloir vivre ce combat-là, plutôt que de dire qu'on n'a pas besoin de le vivre. Puis la raison pour laquelle je disais que la majorité d'entre nous, je pense qu'on se trouve dans ce passage ici, c'est pas parce que je crois qu'on a une mauvaise doctrine du péché, mais parce que souvent notre attitude, ou en tout cas moi, mon attitude face au péché dans ma vie et face au péché dans la vie des autres trahit ma doctrine du péché. Pour moi, en tout cas, puis je veux pas viser personne parce que ceci, je l'applique à moi, c'est facile pour moi de regarder le monde dans lequel je vis puis me dire que moralement, je suis pas mal meilleur que le monde en général. C'est facile pour moi de regarder des gens puis de dire, moi, je vis pour Dieu, je fais le bien, alors eux, c'est sûr qu'ils sont dans l'erreur puis sont vraiment moins bons que moi. C'est facile pour moi de me glorifier dans ces choses-là. Puis d'avoir une vision négative des gens qui m'entourent. C'est possible que notre comportement va être meilleur que d'autres, mais quand on parle de cette manière-là, on met l'emphase sur notre capacité à faire le bien, notre capacité de réussir. En quelque sorte, on est en train de louer notre moralité. Mais finalement, sans Jésus, je ne suis pas différent de personne. J'ai les mêmes besoins que tout le monde. Une attitude comme ça démontre plus l'orgueil qu'il y a en moi que le cœur, qu'un cœur humble qui a été purifié par le sang de Jésus. Une autre attitude qui démontre parfois qu'on vit comme si un chrétien n'avait pas de péché ou comme si le chrétien ne pouvait plus pécher, plutôt, si on peut dire ça comme ça, c'est le sentiment de culpabilité qui est en dedans de nous. Notre peur de ce que les autres vont penser, notre difficulté à confesser nos péchés à Dieu puis de confesser nos péchés les uns aux autres. Notre peur qu'on ne sera pas pardonné, qu'on va être jugé, qu'on va être culpabilisé. Quand quelqu'un me demande à moi comment ça va, puis je pense que c'est la même chose pour chacun d'entre nous ici, bien, 99% du temps, je vais répondre, ça va bien. Puis, sans vraiment me poser de questions, c'est comme notre manière de débuter une conversation, ou plutôt de juste être poli puis dire bonjour à une personne, nous on va lui demander comment ça va, on va répondre, ça va bien. Mais dans le fond, peut-être que ça va vraiment bien. Peut-être que cette personne-là, tu ne la connais pas vraiment, fait que tu n'as pas le goût d'y dire que ça ne va pas pantoute. Mais peut-être aussi que la plupart du temps, on a le goût que le monde y pense que ça va bien. On n'a pas le goût que les gens sachent qu'on a des problèmes, qu'on a des péchés dans notre vie qui nous empêchent d'avancer, qui nous rongent, qu'on est en train de vivre intensément. On n'a pas le goût que les gens sachent ça. Puis, de suite, je ne suis pas en train de dire qu'il faut dire ça à voix haute à tout le monde. Je crois qu'on a besoin d'avoir des relations avec les gens. Mais on n'a pas le goût d'être à découvert. Puis l'ennemi veut me culpabiliser à un tel point que quand je pêche, je dois le garder pour moi. Je ne dois pas en parler. Je ne le confesse même pas à Jésus parce que je me dis que je ne vaux pas la peine d'être pardonné. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. On agit comme si un chrétien ne s'empêche plus une fois que ça devient un chrétien. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est verset 9. Si nous reconnaissons ou si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Confesser nos péchés, ce n'est pas juste les dire à Dieu. C'est pas comme si il faut que tu dises à Dieu ton péché pour que Dieu il fasse comme « Ah, je ne savais pas ». Dieu sait ce qu'on fait, Dieu sait comment on vit. Mais confesser nos péchés, c'est oui de le dire à Dieu, mais c'est plus que ça, c'est de dire à Dieu, « Dieu, j'étais en rébellion contre toi, mais maintenant je suis d'accord que ça, c'était un péché. Parce que toi, tu as dit que c'était un péché. Je suis d'accord que j'ai fait le mal, parce que toi, tu as dit que c'était mal. j'ai agi contre ta volonté. Et de confesser nos péchés, ça nous amène à la repentance. Parce qu'il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que dans ma conception à moi, si je fais un péché, je me dis, si quelqu'un savait ça, qu'est-ce qu'il penserait de moi? Si quelqu'un apprenait ça, il voudrait peut-être plus me parler. Quelles conséquences que ça pourrait avoir dans mes relations? Comment est-ce que je peux me protéger? Bien, je ne le dis pas. Et pourtant, et ça m'est même déjà arrivé de dire, quelqu'un m'a dit, remets-le à Dieu. J'ai dit, non, ça fait 100 fois que je le fais. Là, je pense qu'il ne veut plus que je le fasse. As-tu déjà été dans ce point-là dans ta vie où que tu t'es dit, Dieu ne me pardonnera même plus? Mais si je marche avec Jésus, Jésus sait qu'on n'est pas parfait. Il sait qu'est-ce qu'on a fait. Il sait à quoi on pense, comment on se sent. Il connaît nos doutes, nos faiblesses. Si tu es son enfant, il t'a déjà pardonné à la croix. Il est mort une fois pour tous tes péchés. Puis, des fois, c'est que quand on pêche, on se dit c'est bien trop simple de juste demander pardon à Dieu, de juste confesser mes péchés. Mais c'est ça qui est le plus difficile en tant qu'être humain, c'est de voir la simplicité et la beauté de l'Évangile. Le gros travail, c'est Jésus qui l'a accompli à la croix. Puis nous, tout simplement, on a besoin de venir à lui puis de dire, Jésus, je te confesse que j'ai fait ceci. Je te confesse que j'ai manqué de foi en toi. Je te confesse que j'ai fait ça et je te demande pardon. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Tout simplement. Et ce qui est intéressant, c'est que Jean écrit à des gens, puis tout au long de 1 Jean, il va leur parler, « Aimez-vous les uns les autres. » Et on le voit déjà qu'il commence à dire ça, « Vous êtes en communion les uns avec les autres. » Et je crois que moi, j'ai besoin, et on a besoin de nous voir comme étant des outils les uns pour les autres, pour nous aider à nous tourner vers Jésus quand on a besoin de le faire. On a besoin de voir les gens qu'on aime, les gens avec qui on est plus proche, puis leur dire, est-ce qu'il y a un péché dans ta vie pour lequel je pourrais prier? Parce que je t'aime, puis j'aimerais ça que tu puisses te tourner à Jésus, j'aimerais ça que tu puisses avoir la victoire sur ce péché-là. Dans les groupes maisons, dans nos familles, dans nos groupes d'amis, des groupes d'hommes, des groupes de femmes. Est-ce qu'on est capable de dire, j'ai péché puis j'ai besoin qu'on prie ensemble. On est des outils les uns pour les autres pour nous aider à tourner vers Jésus. Le troisième, on ne va pas passer trop de temps dessus, mais parce qu'il ressemble pas mal à celui-là qu'on vient de voir. Mais au verset 10, on peut lire, « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. » La différence est ici, ce n'est pas si on dit qu'on n'a pas de péché, mais si nous disons que nous n'avons pas péché, que nous n'avons jamais péché. Et je sais qu'il y a beaucoup de croyances autour de nous, puis on rencontre toujours des gens qui vont dire, on va leur parler de Jésus, de leur besoin d'un sauveur, puis qui vont me dire, moi, je suis une bonne personne. J'ai fait plus de bien que de mal dans ma vie, puis je crois que je m'en vais au ciel. Et il y a des croyances comme ça, où ce qu'on dit, finalement, j'ai pas besoin de Jésus pour être sauvé. J'ai pas besoin de Jésus pour être transformé. Je peux faire ça par moi-même. C'est tout autour de nous. Mais le passage dit que chaque personne qui dit qu'il n'a jamais péché fait de Dieu un menteur. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Et Jésus est allé jusqu'à la croix pour pardonner les pécheurs que nous sommes. Et puis, au verset 1 et 2 du chapitre 2, « Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. » Fait que finalement, tout ce passage-là, c'est pas un moyen de pécher. C'est pas ça ne nous donne pas raison pour pécher. On n'a pas le droit de pécher parce qu'on est sous la grâce de Dieu. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il y avait une connaissance à cette époque-là où est-ce que les gens qui avaient fait quelque chose à Rome, à l'empereur, pour s'en sortir, il y avait besoin de quelqu'un, un avocat qui allait se présenter puis qui allait plaider en faveur de cette personne-là pour apaiser la colère de César, pour que la personne ne reçoive pas la pénalité qu'il méritait. Et à chaque fois que je pêche, que je confesse mes péchés, Jésus est auprès du Père et est en train de dire ça, c'est mon enfant. Lui, il a cru en moi, je l'ai pardonné. Jésus est celui qui apaise la colère de Dieu qui nous était destinée. Il n'y a pas personne ici, peu importe ce que tu as fait, peu importe qui t'es, peu importe de comment loin tu viens, il n'y a pas personne ici qui ne peut pas être sous la grâce de ce Jésus-là, sous la protection de ce Jésus-là. Et Jésus, c'est lui qui est allé jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix pour nous. Il a pris nos péchés. Il a apaisé la colère de Dieu. Jean ne veut pas qu'on pêche. Ce n'est pas ça qu'il dit, il ne veut pas qu'on pêche. Cette exhortation-là, mais je ne veux pas que vous péchiez. Mais il veut qu'on sache que Jésus est là pour nous. Il veut qu'on sache que Jésus est mort pour nous. Et c'est quelque chose qu'on a besoin de se rappeler à tous les jours. Parce que tous les jours dans nos vies, on a besoin de se rappeler qu'aujourd'hui, Jésus est mort pour moi. Parce qu'aujourd'hui, je vais être un pécheur sous la grâce de Dieu, mais néanmoins un pécheur. Alors marchons dans la lumière, en communion les uns avec les autres, reconnaissant que nous sommes des pécheurs qui cherchent à faire le bien. On va avoir le 31 décembre qui s'en vient, la veille du jour de l'an. Et quand j'étais adolescent, on avait une... on se rencontrait, une gang de jeunes, dans une maison. On était comme, je pense qu'on a déjà été comme 40, 50. Puis on fêtait le réveillon ensemble, puis on a fait ça pendant des années. Puis la chose qu'on faisait à chaque année, c'était que vers 11h30, on se mettait tout en rond ensemble. On s'assisait, puis là, on disait les uns les autres des choses que Dieu a faites dans nos vies pendant l'année, des bénédictions. On remerciait Dieu pour des choses. Puis là, juste un petit peu avant minuit, on priait ensemble. Puis on se disait que c'était cool de finir l'année en prière puis de commencer l'année en prière. C'est pas le party de jeunes auquel vous attendiez, hein? Et puis, ce qui est vraiment le fun dans ces moments-là, c'est que on peut faire une rétrospective de ce qu'on a vécu, puis on peut regarder en avant de ce qui s'en vient. Et puis, je pense qu'on a besoin de commencer à faire ça dans notre cœur, nous avec Jésus. Puis on a besoin de faire ça aussi en pensant à nos relations. Parce que finalement, c'est ça qu'on voit ce matin, c'est que Jésus veut que... on soit libéré de l'emprise du péché. Jésus veut qu'on soit libre et qu'on soit en paix et qu'on s'aime les uns les autres. Et puis, c'est cette occasion-là qu'on avait ensemble le 31 décembre, c'était un peu ça. En groupe, on s'assisait, puis je m'en souviens pas nécessairement si on confessait des péchés ou pas. Peut-être qu'il y en a qui l'ont fait. Mais c'est quand même un bel exercice qu'on avait en groupe de pouvoir s'asseoir, prier Dieu, puis de commencer l'année de cette manière-là. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire seulement le 31 décembre. Mais c'est quand même, je crois, une bonne résolution qu'on peut prendre cette année, qui est d'aller devant Dieu puis demander à Dieu de sonder notre cœur. Demander à Dieu, peut-être que Dieu le fait déjà, de remercier Dieu parce qu'il travaille des choses que vous êtes conscient qu'il travaille dans votre vie puis que vous vivez ce combat-là. Mais demandez à Dieu qui sonde votre cœur, qui vous montre qu'est-ce que Dieu veut changer dans votre vie, que vous puissiez confesser vos péchés. Ma prière, c'est qu'une de vos résolutions, c'est que si vous êtes en conflit avec quelqu'un, c'est que vous résoudiez ce conflit-là. Parce que ça, c'est super important aux yeux de Dieu. Peut-être qu'une résolution, ça pourrait être d'aller voir quelqu'un une fois de temps en temps puis de dire, est-ce que je peux prier pour toi? Y a-t-il quelque chose que je peux prier pour toi? Puis peut-être que tu es ici ce matin puis c'est la première fois que tu entends ça, que Jésus est mort pour tes péchés, que Jésus veut te donner la liberté. Peut-être que tu te sens toute sale ce matin, que tu sens comme si t'étais rien ou que... Je ne sais pas comment tu te sens. Mais c'est le temps d'aller dans la prière puis de demander à Jésus de changer ta vie, de mettre ta foi en lui. J'aimerais ça qu'on puisse prendre quelques minutes de prendre un temps de recueillement. Donc, j'aimerais ça que, dans le silence, si vous voulez prendre un temps avec Dieu, on va terminer comme ça, puis je vais terminer avec la prière avant que le groupe de louanges revienne. Mais on va prendre quelques minutes. Et s'il y en a d'entre vous qui avez à cœur de juste, ben, dans le silence, dans notre cœur, comme on dit, prier. Et je vais vous laisser quelques instants pour faire ça. Ton amour pour nous que tu as démontré à la croix. Et peu importe, Seigneur, où on est dans notre vie, tu ne nous abandonnes pas. Tu nous prends comme on est. Et je veux vraiment te remercier pour ça. Je te prie que chacun d'entre nous, on puisse, Seigneur, regarder dans le cœur et te remettre ce qu'on ne t'a pas remis. Qu'on puisse te confesser nos péchés. Qu'on puisse en faire une habitude, Seigneur, de confesser nos péchés quand on pêche. Et pas juste de les accepter. Parce que toi, tu détestes le péché. Je te prie, Seigneur Jésus, que s'il y en a ici qui ont des conflits, Seigneur, qui c'est pas toujours juste de notre, c'est pas juste de notre ressort de pouvoir régler un conflit, mais que Seigneur, tu puisses mettre à cœur à ceux qui ont des conflits de régler, de résoudre ces conflits, de se réconcilier, Seigneur, avec d'autres, pour qu'on puisse obéir à ce commandement de nous aimer les uns les autres, comme toi tu nous as aimés en mourant à la croix pour nos péchés. On veut te remercier pour ta présence parmi nous ce matin. C'est dans ton nom qu'on te prie. Amen.